Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, un épisode de news pour... nous sommes en juin 2026 et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde. Épisode de news, évidemment, où on revient sur toute l'actualité, en partie de la sécurité. Comment sécuriser, nous, nos propres applications ou les applications de nos clients. On va parler, évidemment, de formulaires auto-générés. On va parler aussi de solutions locales pour faire tourner nos meilleurs modèles et faire du dev agentique en local. On va parler de MCP, de web MCP, avec des dev tools qui nous permet d'aller récupérer plein d'informations et de les injecter dans notre IDE. On va parler aussi de recommandations de comment sécuriser et comment mieux utiliser tout l'écosystème IA pour nous faciliter la vie sans pour autant tomber dans des pièges de sécurité. Ouais, on attaque tout de suite, Patrick?
Oui. Alors, dernier épisode qui a plutôt bien fonctionné, apparemment l'IA locale intéresse beaucoup de gens, donc on voit que c'est la tendance du moment.
Ça tombe bien, nous aussi.
Et donc, un peu plus tard dans l'épisode, il y aura deux outils encore pour faire de l'IA locale, on a trouvé des nouveaux, donc c'est rester jusqu'à la fin.
Jusqu'au bout. Allez, on attaque tout de suite par l'écosystème PHP avec Composer qui sort avec une nouvelle release. Qu'est-ce qu'elle amène, cette version 2.10?
Eh ben, dernièrement, alors personne n'est épargné en ce moment. Il y a beaucoup d'attaques par chaîne d'approvisionnement. Donc les packages PHP en ont fait les frais aussi. Il y avait des packages Laravel dernièrement là, qui ont été attaqués. Laravel Lang, je crois. Ouais. Et donc, Composer a assez vite réagi avec une version 2.10 qui arrive là. Et il y aura un filtrage natif en fait, des logiciels malveillants. Donc, tout ce qui est Composer Update, Require ou Install, en fait, il y aura un filtre qui va vérifier l'installation des packages, tout ça, s'il y a un problème ou quoi. Ça, c'est alimenté par Aikido, donc c'est un service qui vérifie un peu les packages, tout ça, comme on a déjà sur NPM. Et donc, voilà, ça ajoute de la sécurité, parce que c'est vrai qu'en ce moment, ça n'arrête pas les attaques, donc...
Donc, sauf que ouais. Patrick, moi je suis pas dans l'écosystème PHP et donc comment je peux faire pour me protéger de l'injection de packages dans mes packages NPM et quand je vais faire mon application web, je vais faire mon update, ma mise à jour de mes applications, de mes dépendances, comment je peux faire?
Ouais, tu fais comme moi, tu mets plus à jour. Enfin, j'ose plus rien mettre à jour en ce moment. C'est un truc de fou. Non, NPM, pareil, réagit. Actuellement, en fait, il faut savoir que... Alors, il y a eu pas mal d'attaques aussi, pareil, sur les packages NPM. On se rappelle d'Axios, tout ça. Enfin, il y en a eu depuis d'autres. Mais souvent, en fait, ça passe par les scripts de pré-install et post-install, c'est-à-dire des scripts qui sont joués avant l'installation du paquet.
Bon, voilà. Après.
Et c'est là-dessus qu'ils arrivent à injecter, en fait, parce qu'en fait, souvent, ils essaient d'aller dans la machine qui est en train d'installer les packages pour aller chercher des trucs intéressants, des tokens, machin, bidule. Donc, actuellement, les versions NPM, avant la 11.16, il faut faire un --ignore script pour ne pas jouer, en fait, ces scripts post-install et pré-install. Donc ça, c'est vraiment, il faut le taper pour que ça ne se joue pas. Dans la version 11.16, il y aura déjà des warnings qui vont s'afficher par rapport au script post-install. Dans la version 12, ils seront par défaut bloqués, en fait. Donc, on n'aura plus besoin de mettre ignore script pour les bloquer. Ils seront par défaut bloqués. Et normalement, d'après ce que j'ai compris, parce que ce n'est pas encore très clair sur la doc, il y aurait un allow script à remplir pour dire ce script, tu peux le jouer, celui-là, tu peux le jouer, etc. Donc voilà, on ajoute de la sécurité parce que c'est nécessaire en fait. Sachant que PNPM a déjà installé ça par défaut, je crois. Et Yarn aussi, il me semble. Mais, voilà, tous les...
Donc on sent qu'il y a quand même un écosystème qui est en train de se structurer et ce, de manière native, contre la sécurité et toutes ces injections de code malveillant. Voilà, c'est en train de se mettre en place. Par contre, aujourd'hui, ça ne l'est pas encore. Ce n'est pas encore natif. Donc, c'est vraiment à nous de faire super gaffe quand on installe des applications, quoi.
Ouais, il y a ça, il y a les packages. On avait déjà parlé sur d'autres épisodes, c'est de dire une certaine date de fraîcheur. C'est-à-dire, les packages qui sont de moins d'une semaine, tu ne les installes pas. Enfin, tu ne fais pas la mise à jour, en tout cas. Donc, il y a pas mal de choses à mettre en place. Il faut savoir aussi, si vous avez suivi les attaques via GitHub, qui sont assez vicieuses, en fait, il faut savoir que les tags ont un problème de sécurité. Donc, GitHub est en train de réagir, hein, et est en train d'instaurer des nouveaux systèmes de sécurité, etc. Mais il faut savoir qu'il y a eu des... Alors, je ne sais plus sur quel package, je ne l'ai pas en mémoire, mais en gros, il y a des personnes qui arrivent via les tags à faire des versions... Enfin, à écraser les versions de officielles sur le repo officiel via les tags et en injectant du code malveillant, en fait. Ils arrivent à passer outre sans avoir les droits, etc. Enfin, c'est un truc de fou, en fait. Donc, voilà, GitHub est en train de réagir là-dessus parce que c'est vraiment des grosses failles. Mais voilà, il faut faire hyper gaffe. Et comme j'ai... Alors, je disais ça en rigolant, mais franchement, en ce moment, moi, j'ai très peur de faire des mises à jour. Voilà, j'attends beaucoup avant de faire des mises à jour parce que ça fait flipper, quoi.
Et passer dans un scan, c'est vraiment, mais vraiment pas débile, quoi.
Ouais, c'est clair. Ouais, il faut regarder les scans, tout ça. Moi, j'utilise SWF, je crois, si ça s'appelle comme ça. C'est un truc qui vérifie les packages NPM avant de les installer. Ouais. Ouais, il y a plein d'outils, donc faut vraiment se renseigner là-dessus parce que c'est hyper important. Parce qu'une fois que votre machine est injectée par du malveillant, c'est fini, quoi. Voilà.
Par définition.
Ouais. Ouais,
très compliqué. Un autre truc aussi qui est pas super cool, c'est un truc qui s'appelle Utik. Et ça, c'est vraiment sale. C'est vraiment sale.
Ouais, alors c'est pas vraiment du dev, mais c'est quand même important. C'est Utik, c'est un consortium européen de plusieurs opérateurs qui s'est mis en place, etc. Qui a trouvé le moyen d'outrepasser les cookies. Donc, ils n'ont pas besoin de cookies pour vous identifier. En fait, leur système, il est assez vicieux. Ils utilisent en fait un identifiant qui est fourni par l'opérateur télécom, Orange, etc. Et du coup, par exemple, si vous êtes... vous connectez à la maison avec votre ordinateur, il va identifier votre connexion et à partir de là, il va vous envoyer des pubs ciblées par rapport à votre navigation, etc. Donc, ce qui est marrant, c'est que déjà, quand c'est dans un foyer, ça va envoyer les mêmes pubs à tous les ordinateurs, tablettes du foyer. Donc, c'est un peu bizarre. Mais surtout, c'est pas vraiment expliqué correctement quand on accepte les cookies, enfin les cookies. La modal consent, là.
Le consentement des non-cookies, mais de voilà. Autre chose qui n'a pas encore été régulé.
Le consentement de cookies qui ne sont pas des cookies. Donc, c'est un peu... Ils utilisent du CNAME cloaking, c'est-à-dire que les scripts, ils utilisent un sous-domaine du domaine principal. Enfin, voilà, pour faire croire au navigateur que c'est le même domaine. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont pas clean et voilà. Donc dans le lien qu'il y aura dans les notes de l'émission, il y a un site où vous pouvez aller pour bloquer ce système pendant un an. En fait, vous allez dessus avec votre ordi, tout ça. Vous regardez déjà ce que vous avez accepté et il y a aussi un truc qu'on peut refuser pendant un an d'être pisté.
Voilà. Traqué. Ouais. C'est loin de nous l'idée de vous donner des outils pour encore mieux faire du ciblage marketing. Ce n'est pas du tout l'idée. Pas du tout l'idée. C'est plutôt comment s'en prémunir. Ouais. Allez, on bascule dans l'univers des IDE et de Windsurf qui change de nom et qui devient Devin Desktop. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que c'est juste du branding ? Est-ce que ça amène un nouveau lot de features ? Ou on est juste sur du rachat et donc du branding pur ?
C'est un peu du branding, mais oui et non. Mais en fait, c'est une évolution. Windsurf, en fait, il n'existera plus. Il est décédé. Voilà. Et donc, en fait, Windsurf avait été racheté par. C'était quoi la boîte déjà ? En gros, c'est la boîte qui gère Divine là. Et puis après, ça devenait compliqué parce que tu avais Windsurf d'un côté, Divine Desktop de l'autre, tout ça. Donc, ils ont tout fusionné pour avoir un seul outil qui est Divine Desktop et qui est une sorte de système. Alors, c'est comme Cursor. Hein, enfin, la dernière version de Cursor, on peut gérer des agents, etc. Il y a un système de Kanban là, pour gérer les agents, leur donner des tâches, etc. Et tu as une version, on va dire... en secondaire, IDE, pour toucher le code quand on a besoin. Voilà.
Ok, donc ça reste un écosystème, mais avec un mix de IDE, agent de CLI, j'ai vu. C'est vraiment l'écosystème tout complet du dev et du dev agentique. Windsurf qui change, qui, suite à la fusion, en fait,
Ouais, c'est Cognition. Voilà, c'est ça.
Dans une
Cognition
sorte de,
qui avait racheté Windsurf, ouais.
Dans une sorte de logique de produit où on ne va pas enregistrer plusieurs marques, c'est déjà difficile de communiquer sur une marque. Ok. Toi, tu testes ça? Tu as déjà testé ou tu, pour l'instant, tu n'as pas, encore fait
non,
le test divine?
Non, non, je n'ai pas testé. Ah, tu veux savoir si je code, c'est ça?
Non, non, ce n'est pas la question.
J'ai arrêté de coder. Est-ce que je ne touche plus une ligne de code comme tout le monde?
Non, non, mais non, c'est parce qu'en fait, tu vois, je constate qu'en fait, il y a tellement de solutions qui sont en train de sortir, que c'est très difficile de suivre le train déjà. Et surtout, en fait, on se rend compte que quand on change d'outil, il faut déjà un certain temps avant de trouver ses automatismes, de trouver sa manière de travailler. Et inévitablement, dès qu'on change les habitudes de travail, en fait, on a une perte de productivité. Et donc, il faut que cette perte de productivité soit réparée dans le temps par des gains de fonctionnalité qui nous font gagner du temps. Et donc, cette migration d'un outil qu'on utilise au quotidien est toujours, toujours contraignante. Tester tous ces environnements-là, waouh, c'est super dur parce que en fait, bah, tu passes ton temps à, et ça pop,
ouais, tu perds beaucoup de temps
ça pop tout le temps quoi. Et entre le boulot, le temps libre et tout ça, on peut pas on peut difficilement essayer tous ces nouveaux IDE. En tout cas, si toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez testé Devin, Desktop ou autre chose que VS Code et ou voilà. Sur quoi vous êtes, sur quel IDE et pourquoi vous avez fait votre choix et pourquoi vous ne bougez pas, dites-le nous dans les commentaires. Ça nous fera super plaisir d'avoir un peu de retour d'expérience sur ces nouvelles manières de coder avec des IDE ou des outils de dev agentique.
Yes.
Allez, nouvelle solution aussi qui nous permet, en tout cas sur le papier, qui nous permet de faire du code une seule fois et de pouvoir publier sur toutes les plateformes. On va dire, historiquement, celle qu'on connaissait le plus, c'était Electron. C'était une des premières solutions en tant que nous, développeurs web, HTML, CSS, JS, où on pouvait en fait exporter un build dans toutes les plateformes. Sauf que le nombre de plateformes aujourd'hui a explosé. On parle de iOS, d'Android, de iPad, de WatchOS, de tvOS, de Windows, évidemment, du Wasm qui est rentré dans le jeu aussi. Et tout ça, en fait, c'est la promesse de Terry TS.
Perry. Ouais.
Perry, pardon.
Perry.
Dyslexie.
C'est vrai que c'est du TypeScript, ouais, t'as raison. Ouais, Perry, en fait, c'est la promesse de d'écrire en TypeScript et de compiler en code natif, un binaire, il parle de binaire, donc pas de runtime, pas d'électron, tout ça, voilà, pas de système embarqué avec du Node, quoi que ce soit. C'est vraiment du binaire. Donc après, c'est assez récent, je pense. Il faudrait voir si ça dure, si c'est mature, s'il y a du plugin autour, etc. Parce qu'évidemment, c'est toujours pareil. Après, quand tu fais du WatchOS ou de l'iOS, il faut des notifications, des trucs comme ça, est-ce que ça fonctionne, faut tout tester.
Ouais.
Mais en tout cas, la promesse est belle, quoi, de pouvoir écrire en TypeScript et de compiler pour toutes ces plateformes. Après, on peut, pour commencer, comme on disait tout à l'heure, on peut s'amuser pour créer des petites apps pour WatchOS ou des trucs comme ça, pour s'amuser et voir comment ça fonctionne.
Ouais. Après,
la promesse est belle.
Après, ils font exactement, c'est comme tout. Et souvent, la promesse est plutôt belle. Par contre, l'expérience de dev va être plus ou moins forte. Et le résultat, et surtout l'accès aux API natives, en fait, va être déterminante. Parce que, en fait, si c'est l'enfer pour se brancher sur le système de notification ou sur l'appareil photo ou sur les choses comme ça, c'est juste, c'est impossible.
Ouais,
c'est vraiment l'enfer, quoi. Donc, sur le papier, c'est beau. On pense aussi à un concurrent sérieux qui est Tori, qui s'inscrit un peu dans la même veine, Mais on est quand même obligé de rentrer un peu sur du Rust si on veut faire des parties sur... Là, c'est tout en TS, quoi. Donc,
Là, tu vois, il compare le tableau là, sur lequel on est là. Il compare vraiment... tu as le langage, le native code, native... c'est quoi la troisième colonne?
React Native, Flutter...
Non, un peu plus haut, les coches, pardon.
C'est le langage native, widget. Native code, native widget.
Runtime. Et donc là, eux, ils disent il n'y a pas de runtime, et tout est natif. Alors que, tu vois, ils comparent avec les autres, React Native, tout ça. React Native, il y a un écosystème qui est énorme, en fait, avec plein de plugins, machin, tout ça que tu vas rajouter. Et d'ailleurs, parfois, tu te casses la tête pour les mises à jour. Non, là, c'est assez fou, en fait, que ça compile en natif. Donc, je suis très curieux de voir
et bien envie de tester. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses assez, bah, assez sympas.
Niveau de l'UI, tu vois, je vois pas comment ça gère au niveau de l'interface entre.
Peut-être que tu as une grande liberté. Mais à voir, à tester.
C'est intéressant, on pourra peut-être tester. Ouais.
Allez, on change de sujet, on bascule chez Kimi. Kimi qui est un modèle parmi tant d'autres, on va dire. Mais en tout cas, ça fait partie. Pardon. Ça fait partie des modèles qui sont accessibles, qu'on peut télécharger plus ou moins avec des versions cloud aussi. Là, l'outil que tu nous présentes s'appelle Kimi WebBridge. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ?
Alors, c'est une extension qui fonctionne avec l'écosystème Kimi, mais je suis sûr que ça existe dans d'autres systèmes, mais je trouvais ça sympa. En gros, tu utilises Kimi Code, en fait, c'est l'équivalent de Cloud Code et tout ça, Open Code et tout ça. Donc, pour Kimi, c'est des modèles, il y a Kimi 2.5, etc. Donc, ils sont des très bons modèles, hein, et sur lequel Composer de Cursor est basé. Je rappelle, donc, c'est pour dire que c'est un bon modèle. En gros, c'est une extension que tu vas rajouter dans ton navigateur et ensuite, après, tu vas le brancher avec ton agent, donc ton voilà, et ton agent va prendre la main en fait sur ton navigateur et va naviguer comme il veut, etc. Donc, tu peux lui faire des actions ou tester des choses, tester des formulaires, c'est pas mal. Mais en fait, il y a une vidéo où il montre en fait l'agent qui est en train de naviguer, etc., qui remplit un formulaire et tout. Donc voilà, comme si c'était toi, mais ça marche tout seul.
Et ça, en fait, c'est plutôt sympa parce que, en fait, tu te rends compte qu'il y a eu une explosion en fait, des browsers headless justement pour pouvoir être piloté par exemple, par des agents. Et là, pour le coup, ça crée une friction parce que il faut installer ce nouvel opérateur, tout. Mais si on est dans une machine, on va dire desktop, on a déjà un navigateur et donc il lui suffirait de brancher en fait cette porte d'entrée pour que en fait l'agent puisse accéder à notre navigateur. Je trouve le move assez sympa, assez simple. Je vois aussi des possibilités d'automatisation qui sont juste monstrueuses.
Ouais, tu vois la vidéo là. La vidéo qui est en train de passer là à l'écran, en fait, il lui a demandé de créer un Google Form avec des champs, etc. Et en fait, il va tout seul, il crée tous les champs. Tu vois la souris bouger, tout ça, c'est excellent.
Ce qui pour le coup, en fait, se rapproche de la génération d'un comportement humain. Donc, c'est vraiment très, très,
par contre,
très sympa.
C'est marrant que tu parles de browser agent, là, parce qu'en fait, c'est fou, parce qu'il y a quelques mois, on en parlait beaucoup, et aujourd'hui, je ne sais pas. Enfin, qui utilise ça ? Enfin, en tout cas, on n'en parle quasiment pas. Et
j'ai pas compris.
Il y a quelques mois, tout le monde a sorti son petit navigateur avec l'agent intégré, etc., comme chez OpenAI, chez Anthropic, et tout ça. Et finalement, non,
ça n'a pas percé. Ça n'a pas bougé. Mais après, dans l'écosystème, tu vois la vitesse où ça évolue. Je veux dire, Anthropic a dit les MCP, on va se détendre, quoi, tu vois. Alors que c'est eux qui ont poussé le truc, tu vois. Et un an et demi après, 18 mois, pour eux, c'est une génération, quoi. C'est moins important. Donc, aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une tendance, c'est plutôt sur les skills, tu vois. Et donc, ils tentent. C'est là où, en fait, on voit que l'IA n'est pas dans un écosystème, dans une sorte de bulle, et ça va s'éteindre et s'effondrer tout seul. Il est là, il y a une effervescence, ça part dans tous les sens. Et comme tu dis, il y a plein de solutions ou de choses qui sont poussées et ça meurt quasiment instantanément, ou ouais, peut-être ça va renaître de ses cendres, mais sous une autre forme, autrement. Ce qui est sûr, c'est que ça va très, 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 très vite.
Ouais, ça va très vite. En fait, ils testent dans tous les sens pour atteindre les consommateurs finaux, parce qu'on reste consommateur hein, dans tous les cas. Et tout ce qui ne marche pas de suite, en fait, est quasiment abandonné dans l'immédiat. Donc, c'est fou, en fait.
Ouais, complet. Complet. Ouais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que eux, ils sont plutôt là pour durer. Google Chrome, ils sont bien implémentés. Il y a beaucoup de navigateurs utilisent Chromium, et donc ouais. On peut facilement installer le DevTools MCP. Et je considère que quand on est dev web, donner accès au DevTools à notre agent. C'est quand même super, super, super intéressant. Donc, je vous invite fortement à regarder cette petite vidéo où justement, il y a une introduction où il nous explique comment on peut utiliser ce DevTools MCP pour faire du débuggage, et on peut gagner du temps de maboule, et surtout on peut aller récupérer des infos, on peut lancer des scripts, aller récupérer des infos sur la performance. Voilà, parfois c'est assez compliqué. Ce DevTools, il est très bien, il est très puissant. Par contre, l'onboarding et aller mesurer toutes et en extraire toute la valeur, c'est parfois compliqué. Beaucoup plus facile quand on est avec son micro ou son clavier et on vient discuter avec un agent qui va, lui, se brancher directement et va exécuter toutes ces requêtes. Top, vraiment. Je vous invite fortement.
Ouais, tu l'as testé.
Ouais, j'ai déjà installé. Et pour le coup, je t'ai lancé une audite sur du Lighthouse très très rapidement. Donc on peut aussi le lancer pour piloter un site à distance. On n'est pas obligé de le faire tourner sur du localhost. On peut aussi s'en servir pour aller sur un site à part, tiers, ouais. Qui est accessible depuis Internet, et de lui lancer en fait toutes les audits qu'on veut de perf ou de, pour le coup, pour l'exemple, c'était sur du Lighthouse où en fait on voit le SEO, le LCP, tous les KPI en fait des Web Core Vitals, qui s'appellent plus comme ça, je crois d'ailleurs.
Je sais plus aussi, je crois que c'est non. Ouais, peut-être qu'ils changeront de nom.
En tout cas, grâce à ce MCP, on peut interagir et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment.
Ouais,
sympa.
Non, mais c'est pas mal. Ouais.
Allez, bullshit ou pas, petit site internet très intéressant que je vais rafraîchir pour voir l'écosystème et surtout l'animation se mettre en place. Alors pour ceux qui nous écoutent, on est sur une page avec un énorme header où on nous dit est-ce que l'IA est profitable, est-ce que c'est déjà profitable en mai 2026. Et en fait, on voit le nombre de dollars, ça compte en milliers, qui augmente à une vitesse astronomique pour voir en fait si l'industrie de l'IA pour l'instant est profitable. La réponse est clairement
non. Non, il y a beaucoup d'argent qui sont consommés depuis qu'on a ouvert la page. C'est fou. C'est donc ça. Ouais, ça indique en fait si l'IA est rentable ou pas. Et donc évidemment aujourd'hui c'est non. Donc il y a un peu tous les providers, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, tout ça, Anthropic. Et on voit là en fait l'argent dépensé est en rouge et le revenu en vert. Et on voit que la plupart perdent énormément d'argent, sauf un seul à la fin, qui est Nvidia. Voilà. Qui gagne beaucoup d'argent.
Exactement. Mais au-delà du petit site sympa et intéressant, graphiquement juste, voilà, où on vient visualiser le coût, je pense qu'il faut comprendre, et on l'a déjà dit sur le podcast, que en fait, les tokens aujourd'hui ne sont pas chers.
Les tokens ne sont pas chers, ça change.
Les soldes. Et c'est juste uniquement une question de temps avant que les forfaits explosent ou que le nombre de tokens soit radicalement descendu, à part une méga optimisation des compressions des tokens ou de consommation de tokens. Je vois mal comment, en fait, on va réduire ça. Donc, en clair, ça va coûter de plus en plus cher d'utiliser ces IA-là. Donc, en clair, c'est les soldes. Profitez-en, cramez du token pendant que c'est pas cher. Parce qu'un jour, la récréation sera terminée et il faudra sortir la carte bleue, clairement.
Ouais, c'est totalement subventionné en ce moment. Et, et pour rappel, depuis le 1er juin, le prix de chez Microsoft.
Ah, non, Copilote,
les tarifications ont changé. Apparemment, j'ai lu des.
C'est plus 5 fois 5 fois 10.
Bah, les mecs, en fait, ils se plaignent sur X, tout ça, enfin Twitter. Bah, en fait, les factures explosent et ils ont déjà atteint leur quota en 2 jours. Enfin, bref, c'est la folie. Donc, les mecs, ils essaient de migrer. Enfin, bref. Donc, là, on voit que ça. Donc, là, tu me disais aussi Anthropic le 21 juin. Enfin, je ne sais plus quelle date exactement. Et, enfin, ils ont changé les règles.
Ils changent les règles. Ouais.
Voilà, ils obligent les gens à utiliser l'API pour les entreprises, en fait, etc. etc. Ça change très, très vite. Et donc, les factures commencent à exploser au niveau des entreprises. Alors, je ne sais pas si tu as vu le message de chez Uber, un des mecs de chez Uber qui dit que ça devient. Alors, bah, en fait, ils ont épuisé leur budget IA déjà pour l'année 2026.
Ah, sauf qu'on est au mois de juin, les gars.
Voilà, sauf qu'il dit que ça devient compliqué d'expliquer les dépenses IA par rapport au retour sur investissement. Donc, voilà. Ils se rendent compte que ça coûte très cher par rapport à ce que ça ramène. Donc,
Est-ce que c'est la fin du match ? Est-ce que ça va durer dans le temps ? Est-ce que le pari de Anthropic ou de Cursor et tout ça, qui est de financer et de un peu comme de la drogue où en fait on est financé camé sur les premières doses pour être totalement junkie et addict à ça et après on sortira la carte bleue ou l'écosystème va réagir et va trouver soit d'autres solutions, soit en fait on va revenir à la raison en mode en fait on va peut-être besoin d'embaucher des juniors parce qu'en fait dans le temps peut-être que c'est plus viable aussi. J'en sais strictement rien, j'ai pas de boule de cristal. Ce qui est sûr, c'est que on sent une période où tout le monde se regarde et c'est hyper attentiste. On a des signaux faibles des montées de prix, une augmentation significative des prix. Les entreprises sont plutôt frileuses sur l'embauche. Tout ça, en fait, dit que c'est compliqué. Ça va être compliqué. Où est-ce que ça va ? On n'en sait rien, nous.
Non, on ne peut pas savoir. Ça va tellement vite, on ne peut pas savoir. Mais c'est vrai qu'on va dire que dans peut-être fin 2026, on aura déjà les idées un peu plus claires. Mais je pense que c'est un petit peu la fin de l'emballement comme ça. Ça s'est beaucoup emballé. Je pense que ça va se tasser un petit peu. On va être un peu plus pragmatique. Et voilà, ça sera un peu plus raisonnable. Donc, c'est bien. Ça part dans le bon sens, à mon avis.
Et quand tu parles de pragmatisme et de bon sens, Google a enfin en fait communiqué sur le fameux SEO, mais pour les agents, donc le GIO, comment on va pouvoir interférer, qu'est-ce qui Google attend en fait pour être identifié par les fameux modèles et tout le business du SEO qui disait oui, il faut être mentionné dans le modèle. Si on est mentionné dans le modèle, ça passera. Et donc là, ils ont fait une sorte de white paper qui nous explique un peu comment eux, ils voient les choses. Et clairement, si on doit résumer, comment on pourrait résumer ça ?
Alors, le résumé, il est simple, c'est faites du SEO comme avant et tout va bien se passer. En gros, c'est ça. Alors, il faut savoir qu'il y a eu la Google I.O. Il y a une semaine ou deux. Et alors, en France, on est très épargné par ça. Mais si tu vas en Suisse ou en Italie, là, j'en reviens, tu as le IA Overview qui est en actif depuis plusieurs mois déjà. Donc, c'est un petit résumé IA en haut des résultats de recherche. Et pendant la Google I.O., ils ont annoncé le mode IA. Donc, c'est un nouveau mode de recherche, où, un peu comme Anthropic, où tu as... Alors, ce n'est pas par défaut. Tu es toujours par défaut sur la recherche classique, mais tu peux passer en mode IA et tu as un résultat comme Perplexity, pardon, je crois que j'ai dit Anthropic. Perplexity, où tu as un résumé de l'IA directement avec... tu peux faire ci, ça, des petits liens, etc. Donc, ils ont lancé ça en grande pompe. Alors déjà que les gens se plaignaient beaucoup de l'IA Overview, comme quoi ça amenait moins de visites. Là, ils sont encore plus déçus en disant bah, putain, ils vont, c'est la mort des médias, etc. Bref, il y a eu, voilà, ils étaient tous en berne le lendemain de l'annonce. C'est un peu catastrophique. À voir si ça va durer dans le temps, etc. Est-ce que les gens vont l'utiliser? Est-ce que ça va leur plaire, etc. On ne sait pas encore. Mais en tout cas, oui, ils ont publié ce truc-là sur la recherche IA, comment être mentionné, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être mentionné par ce mode IA, etc.
Faites du SEO.
Faites du SEO. Continuez le SEO comme avant. Il faut. Et alors, là, ils disent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faut faire, c'est toujours faire du SEO propre. Écrivez pour les lecteurs, écrivez du contenu unique, etc. Faites des choses de qualité et vous serez mentionné, etc. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut éviter toutes les bullshit qu'on vous dit pour faire du GIO. Tu sais, les agences SEO qui maintenant sont agences GIO, qui te disent de faire tel truc, faire du FAQ, etc. Tout ça, en fait, c'est de la bullshit. Ils disent ne faites pas ça, c'est comme du spam, etc. Et vous allez être à la limite presque placé en spam, quoi, tout simplement, et donc éviter tous ces trucs de hack. Donc, tout ce qui est de faire trop de méta, comme ça, JSON LD, là, les. Ah, j'ai oublié le nom.
Schema.
Ouais, les JSON schema. Ouais, voilà, tous ces trucs-là. Éviter d'en faire trop, éviter de faire trop de FAQ, éviter d'écrire. Voilà, avec. Voilà, c'est. Faites du SEO propre.
Après,
écrivez pour les lecteurs, ça va marcher.
Tu vois, ce qui est peut-être super intéressant, c'est faire de la suroptimisation technique sur ton JSON LD, sur tes schémas, tout. OK. Par contre, si on en fait dans des conditions de facilité aux crawlers d'aller parcourir notre site, en fait, on aura un bénéfice parce que y aura plus de visibilité. Ce qu'ils mettent en avant, c'est quand même la suroptimisation et de le faker la réputation ou en tout cas générer du lien. Ça marche pas. Aujourd'hui, ils sont aussi intelligents, quoi. Parce que ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que si nous on a des modèles pour générer en fait du slope et de générer des sommes astronomiques de données. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en face, de l'autre côté, ils ont aussi des outils pour voir le slope des signaux forts de trafic, de combien de temps on a passé sur le site et tout ça. Donc, il faut garder en tête que ces outils en face, ils les ont aussi, quoi. Donc, il ne faut pas être plus malin que Google, quoi. Faut pas essayer de croire que t'es plus malin que Google.
Non, clairement. Et en plus, j'ai lu dernièrement qu'ils avaient maintenant une détection. Alors sur LinkedIn aussi, j'ai vu ça, mais pour les posts générés en IA, mais Google apparemment détecte aussi le contenu généré par IA. Et contrairement à ce qu'on pensait, il le déclasse. Enfin voilà, il le passe en dernier, etc. Donc ça, ils sont capables de le détecter. Puis on va dire que la qualité du texte généré des fois est vraiment moyenne, donc ça se détecte assez facilement. Mais oui, article super intéressant pour suivre les bonnes guidelines pour faire du bon SEO. Être cité dans les résultats de l'IA.
Et on verra ça tout à l'heure hein, quand on parlera des skills, mais peut-être que prendre cet article et générer à nous-mêmes notre propre skills pour peut-être que ça pourrait être intéressant. On en reparlera juste après. Allez, ça fait polémique.
Le drama.
Ça fait polémique. Petit drama dans l'écosystème du runtime avec Bun qui a été racheté par Anthropic. Bun qui est le runtime JS, concurrent de Node, qui est concurrent de Deno. Et gros problème, il a été racheté par Anthropic et il était écrit en Zig. Et là, en fait, ils ont lancé la réécriture en Rust. Et là, c'est le drame.
Non, là, il y a un article qui résume un peu tout sur développer.com, qui est vachement intéressant, qui explique un peu la timeline, en fait, au niveau de... Donc, Bun n'a pas techniquement été racheté par Anthropic, c'est plutôt l'équipe de Bun, et Bun reste open source, normalement, mais c'est quand même l'équipe qui est chez Anthropic qui dirige, en gros, dans quelle direction va partir Bun. Et donc, en fait, oui, effectivement, il était écrit en Zig à la base. Et Zig, le truc, c'est le problème, c'est que Zig interdit. Ils en ont eu marre, en fait, d'avoir des PR, etc., qui arrivaient écrits par IA, des trucs incohérents. Ils parlent de PR avec 10 000 lignes de code complètement débiles. Voilà. Donc, du coup, ils ont fermé les contributions à tout ce qui était agent IA. Ils aiment pas trop tout ce qui est agent IA qui écrit du code, etc. Donc, en fait, Bun, du coup, en étant chez Anthropic, c'est un peu conflictuel par rapport à Zig. Le code de Bun. Donc, il y avait déjà ça. Donc, ils s'inquiétaient déjà. Et donc, en fait, ils ont lancé, chez Bun, ils ont lancé une PR, tranquillement, un jour, où le système devait prendre le fichier en Zig et le convertir en Rust. Donc, ils prenaient un fichier, les fonctions à l'intérieur, et ils les convertis en Rust. Tu vois, c'est d'ailleurs, on est en plein dessus, là. Il prend le fichier Zig et il le convertit avec les mêmes fonctions, etc., tout pareil, sans le compiler. Et donc, petit à petit, il convertissait tous les fichiers comme ça en Rust, etc. Et on apprend quoi? Donc, c'est pour ça que tu avais la PR juste avant ouverte. En fait, il y a à peu près 15 jours, ça a été mergé, en fait, dans Rust, dans Bun, donc la version Rust. Et donc, elle est disponible sous Canary, en fait. Donc, en fait, aujourd'hui, avec Canary, tu peux faire tourner Bun qui tourne en Rust. Donc, ouais. Ça a été fait.
La vraie question, c'est est-ce qu'il y a un bénéfice pour l'utilisateur? Est-ce qu'il y a un bénéfice de performance? Est-ce qu'il y a un bénéfice de future évolution possible technique, tu vois? Est-ce que l'équipe, en fait, quand tu as 3 ou 4 devs Zig spécialisés, est-ce que tu leur dis, écoutez, le Zig, c'est fini, les gars, maintenant, c'est du Rust? Est-ce que ça va tenir, ça? Ou au final, c'est juste de la
politique? Il y a plusieurs trucs. C'est pour ça que l'article est intéressant. Il va vraiment dans le détail. C'est que Claude Code a des problèmes de performance, a priori, quand il fait tourner beaucoup d'agents, etc. Donc, il disait que c'était plutôt la faute de Bun. Donc, ils avaient forqué Zig, en fait, pour faire une version un peu plus performante, etc. Il y a aussi le côté où Anthropic avait dit qu'ils feraient pas de vibe coding sur leur propre code, tu vois. Alors que c'est exactement ce qu'ils font en ce moment avec Bun. Voilà, il y a plein de choses qui font que les gens s'inquiètent, en fait, de Bun. Qu'est-ce qu'il va devenir en étant chez Anthropic? Voilà, c'est grosse inquiétude sur qu'est-ce que va devenir Bun, puisqu'Anthropic, ils disent des choses, mais en fait, ils font l'inverse. L'équipe, à voir. Mais c'est super intéressant.
Et moi, je te cache pas que je suis super déçu de lire ça, parce que j'ai pas suivi cette migration en Rust, Zig, tout ça.
Ça s'est fait rapidement. Hein. Ça s'est fait en 10 jours, je crois, ils ont fait.
Ouais, voilà. Donc, j'ai pas du tout suivi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai migré un gros projet sur Bun, avec des workspaces et tout ça. Et l'expérience est plutôt facile. Plutôt sympa, rapide, fluide. Donc, je trouve, en tant qu'utilisateur Bun, je trouvais un gain significatif, en fait, à passer là-dessus. Et sur aussi l'écosystème qui intègre nativement, en fait, plein de choses. Tu vois, un micro ORM, soit un client Redis, du SQLite, du Async Await partout. Enfin, voilà, il y a des manières d'écrire des fichiers, des choses comme ça. Je trouvais super intéressant. Tu me fais douter maintenant.
Non. Il faut juste suivre, en fait. En gros, le gain, il est surtout en poids, parce que Bun, du coup, est un peu plus léger, mais c'est pas non plus significatif. Hein. C'est ça, entre 5 et 10 %, donc c'est pas un truc de fou. On dit toujours que Rust gère mieux la mémoire, c'est ça. À suivre. En gros, ce qui est marrant, c'est qu'au début, quand ils ont ouvert la PR pour transférer les fichiers de Zig en Rust, ils disaient, c'est un test, on verra, peut-être qu'on va tout jeter à la poubelle, etc. Et là, 15 jours après, il merge tout. Donc, finalement, le test était concluant. Peut-être ça sera super, hein. Peut-être ça va super bien marcher, beaucoup mieux à voir. En fait, il faut juste suivre, mais c'est juste inquiétude sur le fait que ce soit Anthropic derrière, qui fasse l'inverse de ce qu'ils disent, etc.
La gouvernance, on en revient encore et toujours sur la gouvernance, sur les projets open source. Sans thunes, les projets open source meurent. Quand il y a trop de thunes, tu peux pas faire rentrer des mecs, ils mettent des millions sur la table et leur dire, en fait, vous avez pas droit de vote, c'est les gens à l'autre bout de la planète qui vont choisir. c'est toujours très difficile de tenir cette posture-là. Mmh. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours une perméabilité entre le pognon et la gouvernance. C'est indéniable, c'est comme ça. Il faut le savoir. Donc,
Alors, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, Claude Code, il tourne sur Bun. Donc, tant que ce sera ça, normalement, Bun devrait perdurer. Mmh.
Ça se tient. Donc, ouais. C'est plutôt bon. Mais ça nous empêche que... Il n'empêche que c'est à nous de nous préparer et on a fait un épisode global sur l'IA locale, comment s'y préparer. Et là, on revient avec des outils clairement comment tourner, faire tourner des modèles en local avec des applis natives. Et la première, c'est Osorus qui nous permet de faire tourner nos modèles, d'utiliser la mémoire aussi tout en local. Et ça se présente sous... C'est quoi ? C'est un IDE ? C'est un chatbot ? C'est quoi ?
C'est une application qui ressemble un peu à ce qu'on avait déjà... Les outils qu'on avait déjà mentionnés sur l'épisode de l'IA locale. C'est un nouvel outil qui permet de faire de l'IA locale et en même temps d'avoir des connexions vers les API officielles. Classique des providers OpenAI, tout ça. Mmh. Et donc, tu peux jouer avec les deux. Et l'interface est sympa, il y a un petit dinosaure, tout ça, c'est assez marrant.
L'écosystème, mais, on va dire la direction artistique est partie sur un système de dinosaures.
Qui te guide et tout ça, c'est marrant.
Et c'est une chatbox, vraiment chat, mais tu peux t'en servir pour faire tout. Et t'es pas...
Vas-y. Non, surtout, c'est que Mac, normalement, et c'est super optimisé pour les processeurs Mac.
Ok.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut dire.
Ok, ça marche. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que tu n'es pas limité à faire tout en local. Tu as une perméabilité entre du local et du cloud. C'est devenu un peu un standard, ça. On voit ça chez Olama ou chez LM Studio.
Olama,
c'est pas all-in quoi.
Olama, c'est toi, soit t'es en local, soit t'es en cloud, mais avec les modèles Olama, enfin qui proposent eux. Là, par contre, tu es en local ou via les API directes en fait, Anthropic, OpenAI, tout ça. Olama aussi est aussi OpenAI compatible. Donc, c'est-à-dire que tu peux brancher n'importe quel provider qui est OpenAI compatible. Donc, tu as quand même un large choix de cloud.
Excellent.
Tu n'es pas enfermé.
Yes. Autre solution aussi qu'on a sur Mac en local et qui utilise en fait les MLX. Donc, c'est des modèles qui sont optimisés vraiment pour les Mac, en tout cas, et qui tournent très, très bien sur Mac. Ça s'appelle omlx.fr. AI, et en fait, on va de la même manière avoir une interface. Par contre, là, il n'y a pas d'interférence avec des opérateurs cloud. C'est vraiment du pur local. Et il n'y a pas d'interface web ou digitale. Pardon, il n'y a pas d'interface native. Tout se fait en fait via une interface web. Donc, en clair, quand on lance l'application, on se connecte via une URL. Cette URL, fait guise de dashboard. Et c'est là où, en fait, on vient monitorer l'intégralité de nos modèles. On va pouvoir télécharger nos modèles. On va pouvoir regarder aussi combien de tokens on a croqué, combien de tokens secondes. Et il y a un mix entre du CPU, du GPU sur les Mac, les chipsets M, c'est unifié. La mémoire est unifiée, mais on vient aussi utiliser le SSD, donc le disque, pour en fait sauver et créer sa propre mémoire. Et donc, on a des endpoints aussi pour interagir avec OpenIA ou Claude, pour en clair faire du dev agentique local.
Surtout, il y a un système de cache aussi, non ? C'est ça,
exactement.
Si j'ai bien compris.
Ouais.
Un système de cache intelligent qui te fait gagner du token.
Absolument. Et donc, ce qu'il faut... Là, en fait, quand on est sur du cloud, le gain de token, il est en thunes. Sauf que le gain de token en local, c'est de la rapidité en plus. Parce qu'en fait, on a pas besoin de tout lui rebalancer. Enfin, voilà, c'est vraiment de l'optimisation. Pour l'instant, moi, je l'ai utilisé. Je suis plutôt satisfait. J'obtiens des nombres tokens par seconde qui sont plutôt intéressants sur des modèles 36, 3, quelque chose. Donc, c'est plutôt très, très bien. Je voudrais encore passer au niveau au-dessus qui serait de vraiment faire du dev agentique uniquement en local. J'ai pas encore fait mes tests, mais ça me paraît plutôt pas mal pour avancer là-dessus. Bel outil et très 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 léché, propre, hyper simple. Non, hyper simple.
Ça a l'air vraiment top. Hein.
Ça a l'air ultra simple.
Ouais, ça a l'air top parce qu'en plus, tu peux. Il te fournit, on voit dans l'interface dessous, il te fournit les variables d'environnement pour brancher Cloud Code, etc. Donc, tu peux faire tourner ton Cloud Code avec ce OMLX là, directement en local. Donc, c'est un des premiers qui le propose. Quoi.
Vraiment, vraiment sympa. Donc, une fois qu'on fera les tests, qu'on aura fait les tests, on vous en dira plus. Allez, on passe sur un truc super joli, Liquid DOM.
Liquid DOM, bah ouais, c'est une nouvelle librairie qui exploite en fait le HTML in Canva, qui est une future API qui est en flag encore en ce moment dans les navigateurs. Donc c'est dans Chrome, tout ce qui est Chrome, HTML in Canva. En gros, c'est de faire du HTML dans un Canva, vous savez, le Canva qu'on a dans le browser, du 2D, du 3D, et donc, sauf qu'on fait du HTML comme on en ferait dans une page web. Donc, ça améliore énormément les performances de dessin, de 3D, de 2D, tout ça. Donc, en ce moment, ils en parlent beaucoup, Chrome, et donc, ils sont en train de le pousser. Alors, après, le temps que ça soit déployé sur tous les navigateurs, c'est pas pour demain, mais ça vaut le coup de s'y intéresser. Et donc là, c'est une librairie qui fonctionne, qui est basée là-dessus avec d'autres librairies aussi. Mais ça donne des effets comme ça, là, en fait, Liquid Glass, donc le fameux Liquid Glass.
Ça reste quand même Apple qui a lancé cette nouvelle tendance, en tout cas qui a intégré ce nouveau design dans tout son écosystème. C'est fait un peu transparence avec des bordures qui viennent mettre un blur, un effet gaussien. Voilà, c'est super sympa. Là, on a mis en slow motion pour voir en fait l'étape par étape. C'est très joli, c'est hyper polissé, c'est vraiment bling bling. Donc, on peut se retrouver à faire des très belles animations en web. Clairement, on n'est pas encore prêt de voir ça partout sur tous nos sites parce que c'est derrière un flag. Par contre, c'est super joli, quoi.
Ouais, c'est classe. Ça vaut le coup de s'y intéresser, je pense, parce que ça va certainement arriver d'ici, on va dire, peut-être l'année prochaine, ça va se standardiser, se généraliser dans les navigateurs. Donc, ça vaut le coup de commencer à s'intéresser à ça, de voir un peu comment ça fonctionne et puis de jouer avec. Là, ça, c'est une librairie qui te permet de faire ça. Donc, il y a plein d'exemples, il y a le code, tout ça, mais c'est vraiment des effets super sympas.
Et toi, de manière générale, t'es plutôt fan de ce Liquid Glass ? T'es pour ou contre ?
Ouais, ça va, j'aime bien.
Ah ouais, putain,
moi, je suis toujours fasciné par. Moi, je suis fasciné par les bords en fait qui réagissent aux couleurs derrière tout ça. Je trouve que c'est hyper bien fait. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais c'est.
Ok. Ça me vend pas du rêve, quoi. Ça me vend vraiment pas du rêve.
Pas habitué.
Non, je suis pas fan. Après, j'ai fait ma mise à jour comme tout le monde. Tu vois, bon. Mais ça me transcende pas comme ça peut transcender beaucoup de personnes sur le web. On le voit. Voilà, c'est un sujet, quoi. Perso, je suis plutôt contre. Donc, c'est pas grave.
Ouais, j'aime bien.
On va pas arrêter le podcast, Patrick. Ça va, t'inquiète.
Ouais, ça va.
ça roule, on déroule. Allez, OpenAir, un outil desktop SQL. Écrit en Flutter, designé pour les administrateurs de bases de données, pour les développeurs, pour les data analystes. Qu'est-ce que ça amène ?
C'est un client donc, que tu installes sur ta machine pour communiquer avec des bases de données. Donc, il y a plein de bases de données qui sont prises en compte. Hein. Et il y a une petite couche en fait IA dessus qui te permet en fait de d'analyser tes requêtes, d'analyser les tables, etc. Enfin voilà, d'interroger ta base de données, tout ça, d'améliorer les requêtes. Enfin, voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment open source. Et le code est sur GitHub et voilà, c'est petit outil sympa, gratuit.
Open Air.
Alors j'ai pas testé encore.
Open Air, ok. Mmh. C'est ça l'avantage d'être open source.
Ouais.
Par contre, moi, Patrick, je dois te dire que j'ai trouvé un autre outil où là, je suis...
Qui n'est pas open source.
Pardon ?
Qui n'est pas open source.
Qui n'est pas open source, et je dois te l'accorder. J'étais très, très longtemps fan de Table Plus et j'ai fait migration sur Table Pro. Qu'est-ce que c'est ? C'est un client natif de database avec toutes les databases natives, évidemment. Qui est sur Mac aujourd'hui et demain ils sont en test flight là pour tester l'application iPhone. Donc déjà avoir le même client et partager les informations de mon desktop à mon téléphone, déjà ça moi ça me plaît bien. Par contre, ce qui a été game changer pour moi, c'est en fait oui, l'intégration de toutes les databases, OK, très bien. Mais l'IA assistant, ok, c'est cool. Aujourd'hui, tout le monde l'a. Mais il y a un truc qui, moi, m'a fait totalement vriller et qui a changé tout. C'est le serveur MCP. Le gros avantage de ça, c'est qu'aujourd'hui, si on voulait en fait connecter un MCP à ta database, tu vas installer ton MCP en local sur ta machine, sur ton IDE, tu vas lui mettre la clé d'environnement pour accéder à ta database. Sauf que je sais pas toi, mais potentiellement on change tous de projet. Tu as un projet, t'as un client, de projet. Bah, il faut que tu changes tes variables. Il faut que c'est pas les mêmes données, c'est pas la même database, c'est pas la même stack, c'est pas la même version. Très compliqué. Là, en fait, avec Table Pro, ce qui est super fort, c'est que tu ouvres ta connexion de la database de ton client et le MCP, en fait, est global à l'application. C'est-à-dire que ton IDE va se connecter via OMCP au MCP de Table Pro et va aller chercher dans la connexion active. Ce qui fait que toute la gestion des credentials, elle n'est pas interne à l'IDE, mais elle est propre à Table Pro. Et ça, mais c'est juste trop, 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 trop bien. Parce que quand tu as plusieurs projets en cours, bah, le fait de changer, c'est super chiant. Et là, en fait, ça se fait tout seul. Tu ouvres ta connexion et tu appelles ton MCP. Tu dis, OK, bah, va chercher dans cette table. Donne-moi toute la structure. Génère-moi le schéma, le typage en fait, basé sur ce schéma. Bam, bam, bam. Trop, trop facile. Écris-moi cette requête SQL. Trop, trop, trop sympa. Je suis complètement fan. Est-ce que je suis hypé ? Peut-être.
Oui.
On refait un point dans 2-3 mois pour voir si je suis encore hypé. Pour l'instant, je n'ai pas fait le switch de passer en version pro. Soit on a une version annuelle qui est synchronisée, qui est à $24 par an, soit une solution lifetime qui est à $59. Après, à savoir que la version 17 ne sera pas la même, on va dire. Là, ils sont à une version 1 point quelque chose, je ne sais plus quoi. Est-ce que demain, ça va tenir ? Je ne sais pas.
Ouais,
en tout cas, ils sont activement en train de bouger et ça développe activement. Super intéressant.
Ça reste raisonnable, hein, $59. Franchement, c'est vraiment pas grand-chose.
Oui.
Par rapport à, alors c'est super, ouais, l'IA, tout ça. Par rapport à Table Plus, au niveau d'interface, ça marche aussi bien, c'est. Ouais, pareil.
Ouais. La migration, c'est fait sans douleur, mais vraiment, j'ai pris mon URL, je l'ai importé. Et je m'y suis retrouvé tout de suite, pareil, avec les onglets, tu vois, pour avoir différents onglets. L'éditeur de SQL, en fait, avec l'autocomplétion, tout pareil, hyper fluide.
Okay.
Non, franchement, j'ai pas vu de grosses frictions de changer de l'un à l'autre. Par contre, la synchronisation sur le téléphone, pour l'instant, ils sont encore en bêta sur le téléphone, mais on a tous eu, toi aussi apparemment, d'être
Oui.
un peu en speed et de devoir faire une modif un peu en mode cascadeur,
Avant d'embarquer dans
comme
l'avion.
tu pourrais le dire.
C'est déjà
Juste
arrivé.
avant de débarquer dans l'avion ou au milieu de nulle part, tu as une connexion, bam, tu fais ta modif. Ça peut quand même servir et d'avoir en fait cette synchronisation entre ton desktop et ton portable sur voilà, ça peut être super super intéressant.
Ok. Bon, bah cool. Moi, je vais tester.
On refait un point dans quelques mois.
Ouais, mais je vais l'installer. Je vais tester ça de suite. Cool.
Allez, on reste dans le typage avec quelque chose qui s'appelle Formish, qui vient en fait générer la validation
Plus l'écran.
des formulaires. Absolument, j'ai plus d'écran. Et ça s'appelle Formish. En clair, c'est framework agnostique. On vient lui donner notre modèle et tous nos types, le schéma du formulaire. Et lui, en fait, il vient faire toutes les validations et toutes les autorisations et tous les petits mots qui vont bien en mode, bah, en fait, votre email n'est pas valide. L'email doit comporter plus de 8 ou le mot de passe doit comporter plus de 8 caractères. Vous n'avez pas rempli le mot de passe ou toutes ces choses-là. Et en fait, derrière, on vient utiliser ce schéma qui est généré. Et en fait, on l'injecte directement sur notre formulaire et tout est typé avec tous les
Voilà, c'est
mots.
wrappé. Il y a un component form qui wrappe les éléments de formulaire. Le schema, il s'écrit assez facilement avec validbot. Et puis, une fois que tu fais use form, et voilà, c'est parti. Et voilà, ça te valide tout. Donc, ça existe déjà. Hein, c'est pas révolutionnaire, mais le truc est assez simple. Il est surtout multi-framework. Il fait React, Vue, enfin, tout ce que tu veux. Et je crois qu'il est super léger aussi. Il fait qu'il n'est pas très lourd. Ça doit être marqué sur la page du projet. Mais voilà, super simple.
Top.
Comme on aime.
Ouais, c'est d'autant plus facile maintenant de typer, parce que on l'a déjà dit, hein, mais les formulaires, c'est l'enfer.
Oui, c'est chiant, faut le dire.
C'est complètement l'enfer.
Rien d'intéressant à faire des formulaires, c'est clair.
Allez, on revient pour finir sur les skills. Et c'est le nouvel outil, ou en tout cas l'outil qui est en train d'exploser et qu'on vous recommande fortement d'utiliser si vous faites du dev agentique. Néanmoins, aujourd'hui, il y a quelqu'un de Sentry qui a publié une vidéo qui nous explique en fait les menaces sur ces injections. En tout cas, on a des injections de dépendance sur les packages, mais les skills ne sont pas épargnés.
Non, les skills ne sont pas épargnés du tout. En fait, c'est une vidéo qui dure un quart d'heure, donc c'est très rapide. Elle est hyper instructive. Donc, le gars explique tout simplement via les skills où tu peux injecter soit l'injection de prompt ou même, tu sais, là, il donne un exemple avec un petit badge. Alors, qu'est-ce que ça vient faire un badge sur un skill? Ça n'a aucun sens, mais tu peux te faire avoir. Et du coup, dans le badge, en fait, derrière, il y a un code malveillant, etc. Et ce qui se passe, en fait, lui, il a testé plein de trucs comme ça, et à chaque fois, l'agent l'exécute sans broncher. Donc, en gros, si tu mets un skill dans ton projet qui est malveillant, en fait, bah, l'agent va l'exécuter et on se retrouve avec une injection de voilà, savoir ce que ça peut faire, ça aller chercher, bah, toujours pareil dans la machine, aller chercher les tokens, des API, tout ça. Donc, les skills sont très très dangereux, tout comme les MCP. Et donc, lui, il recommande. Alors, la recommandation d'Anthropic, c'est de créer ses propres skills plutôt que d'aller en chercher dans les librairies, tout ça, ou à la limite de les copier, de vérifier, etc. Mais de toujours regarder ce qu'on va installer, tout comme les packages NPM, tout ça. Donc, d'avoir vraiment une hygiène au niveau des skills et de pas faire voilà, des installs parce que c'est tellement facile de faire des skills verrouillés, quoi. Donc, attention à ça, tout comme les MCP qui, je l'ai appris encore il n'y a pas longtemps, que dans les grandes entreprises, il y a beaucoup de développeurs qui n'ont pas accès aux MCP parce que c'est pas sécurisé. Voilà.
Pas facile pour eux. Mais en tout cas, ouais, trouver une hygiène, en fait, comme tu dis, une hygiène de sécurité sur tout ce qu'on installe. Et d'autant plus que donner accès à nos agents, par définition, bah, on n'a pas le choix, on est obligé de donner accès. Et donc, bah, lui donner un contexte qui injecte des choses malveillantes. Très, très, très dangereux. D'autant plus que, tu vois, c'est d'autant plus facile maintenant de créer des skills parce qu'il y a des skills pour créer des skills. Donc, OK, là, c'est un peu
La
de la
compétence.
méta, mais dans l'idée, on installe le skills de Vercel, qui est un peu officiel, qui nous explique comment créer des skills. Et en fait, on suit vraiment la procédure. Mais c'est nous qui créons nous-mêmes nos skills. Alors oui, ça vient croquer du token, ça vient utiliser et créer une étape en plus dans le process. Par contre, on peut peut-être s'éviter de grosses, grosses injections.
C'est clair, c'est clair.
Top. Merci Patrick. Top. On va en rester là sur cet épisode et on va remercier tout le monde, comme d'habitude, évidemment. Un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, partagez la bonne parole de double slash partout. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode et on vous dit à la fois prochaine. Ciao, ciao.
Ciao.